Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Travail, jeunesse, planète. L'avenir de la Terre et de ses habitants appellerait, selon nombre de chercheurs de disciplines différentes, à repenser notre relation au travail, à son utilité positive et à sa finalité. Une aspiration portée ces derniers temps par des mouvements de jeunes à l'échelle mondiale, inquiets non seulement pour leur devenir, mais aussi de leur impact sur l'environnement. Un constat qui pousse désormais le monde économique à être inventif, créatif et à modifier en profondeur les modèles économiques, scientifiques et sociaux. Mais un tel programme est-il audible aujourd'hui? Quel chemin devrait-il emprunter? Au-delà du travail et de ses formes, comment revoir la formation et l'enseignement pour accompagner ce changement de société qui semble se profiler à l'horizon? C'est le sujet de notre émission aujourd'hui sur France Culture avec le philosophe Bernard Stiegler, dont le dernier livre édité au Lien qui Libère et commis avec le collectif Internation s'intitule Bifurqué. Et nous sommes aussi avec Cécile Renoir, présidente du campus de la Transition, directrice de recherche à l'ESSEC, professeure de philosophie éthique au Centre Sèvres, à l'École des Mines de Paris et à Sciences Po. Elle est également religieuse de l'Assomption. Et en fin d'émission, Catherine Goliot, rédactrice en chef au magazine Le Point, nous parlera du dernier hors-série Référence, un trimestriel paru sur l'homme et la nature. Bienvenue à tous dans notre émission, en partenariat avec le service Planète Science du journal Le Monde, dont vous découvrirez bien sûr tout à l'heure l'histoire du jour racontée par le journaliste Rémi Barou, une immersion dans la Convention citoyenne. Et merci à l'équipe, toujours à mes côtés, bien sûr, Anaï Morales, avec notamment Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. Émission réalisée par Peyré Legras, avec à la technique aujourd'hui, Jacques Hubert.
Aujourd'hui, l'objectif du TP va être de descendre de la nacelle l'alternateur. Donc pour cela, il y a deux d'entre vous qui vont aller procéder à l'élingage dans la nacelle.
Et c'est dans une vraie nacelle d'éolienne achetée par le lycée qu'ont lieu ces exercices. Les jeunes auront 2 ans pour se familiariser avec le travail dans cet habitacle particulier. Aujourd'hui, il s'agit juste de démonter cette pièce d'alternateur. Et même si l'engin n'est pas hissé en haut de son mât, les gestes sont encore hésitants.
Ce qu'on leur apprend, c'est à travailler dans un milieu confiné, avec tous les gestes de prudence que ça peut impliquer. Le port du casque, du harnais, le fait de se mouvoir dans des espaces très restreints.
Le métier est récent. Formé comme technicien en maintenance industrielle, les salariés du secteur suivent jusqu'à présent des cours en formation continue pour se spécialiser dans l'éolien. Désormais, le BTS de l'Oudéac offre un vrai diplôme avec toutes les habilitations pour le travail en hauteur, le sauvetage-secourisme et le travail sous haute tension. Avec 10 semaines de stage en entreprise en complément pour répondre à une demande croissante.
On est au cœur au milieu de champs éoliens autour de l'Oudéac, qui sont créés déjà depuis de nombreuses années. Et puis le deuxième point, c'est que dans la baie de Saint-Brieuc, normalement, aux alentours des années 2020, un parc offshore de 500 voire 600 mégawatts devrait voir le jour. Et donc, c'est évident que dans 4-5 ans, il y aura besoin d'un nombre important de techniciens de maintenance.
Ouais, parce que les éoliennes, ça m'a intéressé. Puis ces énergies nouvelles, du coup, c'est assez intéressant à étudier. Quoi. Puis c'est le métier de l'avenir aussi.
Tu penses que tu auras du travail en sortant?
Oui, tout à fait.
Eh oui, c'est toujours cet espoir, effectivement. Reportage diffusé sur France 3 Bretagne le 3 février 2016. Et donc, ces métiers d'avenir, ce monde du travail de demain, autant de préoccupations d'actualité. Vous êtes tous les deux, Cécile Renoir et Bernard Stiegler, au contact de jeunes, de ces étudiants. Cécile Renoir, bonjour.
Bonjour Aurélie.
Bonjour. Comment percevez-vous, avant d'engager plus avant la discussion sur le thème de l'émission Travail, Jeunesse, Planète, comment percevez-vous leurs attentes à ces jeunes gens, justement, qui sont vos étudiants?
Oui, je pense que beaucoup d'étudiants manifestent leur désir de d'œuvrer pour la transition écologique et sociale. Ça me frappe beaucoup dans les dernières années de voir le nombre de plus en plus important de jeunes qui posent un diagnostic sur ce qui se passe, sur des évolutions plutôt très inquiétantes au niveau mondial, et donc ils commencent aussi à voir les effets pour nos sociétés et qui se demandent comment eux-mêmes vont entrer dans ce mouvement-là et vont trouver du travail qui correspond correspondent aussi à leurs attentes et à cette quête de sens, pour reprendre d'ailleurs ce qui a été le titre d'un film qui était justement orienté par le souci d'interviewer des jeunes et moins jeunes qui essayent de mettre leur vie plus en cohérence.
Alors on peut préciser juste pour les auditeurs que vous êtes en pleine nature, hein, mais que vous répondez effectivement à notre sollicitation, notre invitation dans cette émission, Cécile Renoir, et que cette nature aussi, c'est celle que vous avez souhaitée d'ailleurs pour ces étudiants en imaginant le campus de la transition.
Oui, absolument. Alors le campus de la transition est ancré dans un territoire de la communauté de communes du Pays de Montreux, en Seine-et-Marne. C'est un domaine qui a été mis à disposition du projet, qui est un projet de formation, de recherche et d'expérimentation de la transition. C'est-à-dire essayer, je vis avec, là on est une vingtaine à habiter sur place, essentiellement des jeunes, sont des étudiants, des jeunes en service civique, des jeunes professionnels qui sont aussi comme volontaires dans le projet, avec le souci de se mettre les uns et les autres en transition dans tous les aspects de nos vies quotidiennes, c'est-à-dire question d'énergie, de rénovation écologique d'un bâtiment ancien, les questions d'alimentation, les questions de mobilité, etc. Et puis du coup, toute cette matière de la vie quotidienne est aussi la matière de formation que nous proposons à des étudiants qui viennent soit d'universités, de grandes écoles, pour des temps plus ou moins longs, voilà, avec l'idée qu'une expérience en immersion permet vraiment de se représenter peut-être de façon un peu différente les grands enjeux pour demain et de montrer que c'est possible de se mettre en transition, pas seulement de façon individuelle, mais aussi de manière collective. Et je pense que ça, c'est un des grands défis aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois d'arriver à faire des choix personnels qui peuvent faire une différence. Et on aura peut-être l'occasion de parler de la Convention citoyenne pour le climat. Je pense que ces propositions vont tout à fait dans ce sens de l'articulation entre ce qui se fait donc de façon individuelle et puis ce qui est absolument nécessaire à un niveau collectif et ce qui engage donc une réflexion sur la transformation des enseignements et des formations. Ce qui m'a amené notamment là toute l'année qui vient de se passer à travailler avec un collectif d'enseignants-chercheurs dans le cadre d'un livre blanc qui nous a été demandé par la ministre de l'Enseignement supérieur de voir comment est-ce qu'on pouvait réfléchir à un socle commun qui permette de mettre en évidence des connaissances et compétences nécessaires pour entrer dans la transition.
Alors juste petite précision pour nos auditeurs, quand vous parlez de temps court ou de formation, c'est-à-dire ce sont des sessions en dehors des formations dans les grandes écoles et les universités, vous proposez en fait des sessions qui viennent s'ajouter mais qui répondent à ce besoin de se cultiver, de se renseigner, de réfléchir à l'environnement.
Exactement. L'idée, c'est de réfléchir ensemble, de discerner quels sont les chemins possibles, d'expérimenter aussi très concrètement dans la vie quotidienne ce que ça veut dire d'avoir une alimentation, par exemple, beaucoup moins carnée. Voire nous, ce qu'on propose, c'est une nourriture végétarienne, mais surtout pour montrer qu'on peut se nourrir on peut avoir une excellente nourriture sans que ça soit forcément avec beaucoup de viande. Et puis de se déplacer, d'essayer de favoriser des formes de mobilité, ce qu'on appelle les mobilités douces, c'est-à-dire favoriser le vélo, par exemple, ou de faire du covoiturage, et tout ça avec le souci de regarder ce qui est faisable, évidemment, dans un territoire donné. En l'occurrence, nous sommes sur un territoire qui est une zone semi-rurale dans laquelle toute la problématique des gilets jaunes, elle est aussi très présente, et ce qui nous amène à réfléchir très concrètement à ce qui est faisable en respectant le souci de la justice sociale et en disant que tout le monde n'a pas les mêmes capacités à agir et à transformer son mode de vie de façon aussi aisée, et donc à prendre en compte la capacité d'action de chacun. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire donc dans le cadre de formations qui réunissent des étudiants qui peuvent être des étudiants d'école d'ingénieurs comme des étudiants de plusieurs disciplines différentes qui se retrouvent ensemble. Par exemple, l'année dernière, on avait organisé pendant 2 mois une formation qu'on a préparée avec le mouvement Colibri, qui permettait à des étudiants qui étaient aussi bien des étudiants en sciences de l'environnement, en aménagement du territoire, en biologie, en sciences de l'éducation, ou des étudiants de polytechnique, de se retrouver et puis d'avoir une formation à la fois en termes de permaculture, mais aussi autour autour de l'économie, de nouveaux modèles économiques, ce qu'on appelle aussi la question des communs, c'est-à-dire comment réfléchir à ce que sont les ressources communes à partager aujourd'hui et à gérer de façon pérenne pour l'avenir. Une réflexion d'ordre éthique et politique sur le sens que nous mettons aux différentes activités que nous menons. Et tout ça fait un ensemble de savoir et de savoir-faire et de savoir-être qui nous semble absolument décisif à mettre ensemble si nous voulons réussir la transition. C'est-à-dire qu'en gros, il s'agit de faire fonctionner pas seulement sa tête, mais aussi faire valoir toutes les dimensions de notre personne, à la fois ce que nous éprouvons, le rapport à la nature, le rapport à nos émotions, et de se dire que tout ça fait la matière à partir de laquelle nous avançons ensemble.
Les cœurs, les corps et les esprits, en tout cas tout cela se passe sur le campus de la transition au domaine de Forge, et c'est en cours depuis 2018 en Seine-et-Marne. Je me tourne vers vous, Bernard Stiegler, bonjour.
Bonjour.
Je sais que vous êtes aussi très attentif à cette évolution, ces attentes des jeunes exprimées, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que vous travaillez aussi avec des primaires, des collégiens, des lycéens et donc des étudiants. Vous parlez d'ailleurs de Greta Thunberg dans vos livres. Je voulais vous poser tout d'abord cette question. Qu'est-ce qu'elle a déclenché en vous ?
Disons que... Je crois que Greta Thunberg est une figure d'une dimension que j'appelle post-tragique. Alors pourquoi post-tragique ? Parce que elle me fait penser en fait à Antigone. Comme vous le savez, Antigone s'adresse à son oncle en lui reprochant de ne pas respecter la loi divine en l'occurrence. C'est-à-dire en lui reprochant d'utiliser la loi écrite, la loi profane, à son propre profit, c'est-à-dire pour imposer sa tyrannie. Il faut rappeler qu'Antigone est la fille d'Œdipe, que Créon est son oncle, etc. Et que donc c'est une affaire familiale, et c'est une figure de la rébellion, si je puis dire, adolescente, que l'on retrouve en fait dans l'histoire des adolescents en règle générale. Il y a toujours un moment... où les adolescents, enfin pas toujours, mais très souvent, à un moment donné, se retournent vers leurs éducateurs, leurs parents, et en leur reprochant, en fait, de ne pas être fidèles à leur propre éducation, à leur propre enseignement. Je crois que Greta Thunberg est de cette veine-là. Je dis qu'elle n'est pas seulement tragique comme Antigone, mais plus que tragique. Alors pourquoi plus que tragique ? À l'époque d'Antigone... Les Grecs ne pensaient pas que le cosmos pouvait disparaître. Voilà. Pour eux, le cosmos était éternel, c'était l'être en fait. Un et éternel. Aujourd'hui, nous vivons dans un univers qui est en refroidissement. Depuis 1850, la mort thermique de l'univers est une question scientifique primordiale. Et je pense que Greta Thunberg s'inscrit dans cette époque-là. C'est-à-dire qu'elle est une figure nouvelle que par ailleurs j'apparente à ce que Henri Bergson appelait le mysticisme. Dans les deux sources de la morale et de la religion, Henri Bergson dit que la mécanique actuelle, dont il annonce d'ailleurs, c'est en 1932, il parle de l'automobile et tout cela, il annonce que ça finira par s'effondrer, enfin pas par s'effondrer, il ne dit pas effondrer, mais il dit par d'abord ne plus satisfaire les êtres humains et rencontrer des problèmes fondamentaux de fonctionnement. Il dit qu'il faut, dans ce contexte, réarticuler la mécanique et la mystique. Alors, ce qu'il appelle la mystique étant une vaste question. Pour moi, ce qu'il désigne par mystique, c'est ce qui est au-delà de tout calcul, ce qui est incalculable, et donc ce qui reste nécessairement mystérieux de ce point de vue-là. Alors, Greta Thunberg, par ailleurs, c'est une jeune femme, presque une enfant, qui a suscité une haine absolument incroyable, véritablement affligeante, consternante, puisque plusieurs personnes l'ont appelé à la tuer, y compris en France.
Fut extrêmement violent, et y compris sur les réseaux sociaux notamment.
Et gravissime, parce que l'appel au meurtre, en principe, c'est passible de la cour d'assises. On n'a d'ailleurs pas poursuivi ces personnes, ce que je trouve anormal. En tout cas, elle a provoqué une telle haine qu'elle est évidemment l'indicatrice de quelque chose de fondamental. Et par ailleurs, elle a aussi mobilisé des millions de jeunes gens dans le monde entier. Et je pense qu'elle représente en fait une figure fondamentale de la conscience morale contemporaine.
Oui. Et alors ces jeunes gens, hein, Bernard Stiegler, donc vous avez aussi une précision que vous apportez, hein, dans vos écrits, dans votre pensée, c'est de dire on ne parle pas de la jeunesse, on doit parler des jeunesses, parce qu'il y a des jeunesses avec des aspirations complémentaires d'où qu'elles viennent, et vous expérimentez ça notamment en Seine-Saint-Denis, hein, parce que à l'heure où la Convention citoyenne rend ses conclusions, Bernard Stiegler, c'est un nouveau monde qui est en passe d'être inventé de façon collective, et ce collectif, ce générationnel, vous l'expérimentez vous-même sur les territoires.
Oui, depuis quelques années, en fait, je travaille en effet sur le territoire de Pleine Commune, qui est une communauté de communes, enfin maintenant on appelle ça un établissement public territorial qui relie Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers, 9 communes en fait, La Courneuve, etc. Et j'y travaille depuis 3 ans à essayer de développer ce que nous appelons une économie de la contribution, et qui est une économie dont le but fondamental est d'une part de permettre à des gens de travailler au moment où l'emploi diminue, sachant que nous posons nous que le travail et l'emploi ça n'est pas la même chose, et d'autre part de lutter contre le réchauffement climatique, mais plus généralement tout ce qu'on appelle les aspects toxiques de l'ère anthropocène. Et dans ce contexte-là, nous mettons en place ce que nous appelons des processus de capacitation avec des habitants de la Seine-Saint-Denis, qui peuvent être des élèves de collège, qui peuvent être des mères ou des parents de petits-enfants dans des PMI, qui peuvent être des personnes qui travaillent sur le recyclage, etc. Le principe de cette démarche consistant à progressivement mettre en place une économie nouvelle dont le principe de valorisation de ce qu'on appelle les chaînes de valeur est basé sur la lutte contre l'entropie, la diminution de l'entropie. Alors l'entropie, c'est ce qui est désigné, c'est ce qui désigne depuis 1865 la dissipation irréversible de l'énergie, donc qui a été mise en évidence dès 1824 en fait par un ingénieur et physicien français qui s'appelait Sadi Carnot. Ensuite, des Anglais, des Allemands, des Autrichiens ont théorisé tout cela, en ont fait une véritable théorie physique qui s'appelle la théorie thermodynamique. Mmh. Et au XXe siècle, un autre très grand physicien, Erwin Schrödinger, a montré que le vivant, c'est ce qui lutte contre l'entropie et ce qui réussit à la différer dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, le temps qu'un organisme vit, il maintient sa structure, il maintient son énergie, donc il lutte contre l'entropie, il diffère sa mort, autrement dit, mais aussi dans l'espace, parce que ce faisant, il se différencie lui-même ou à travers une espèce, et il transforme le milieu dans lequel il habite. Donc tout ça, c'est ce que Schrödinger appelait l'entropie négative, qui a été ensuite appelée la négentropie, et nous travaillons à mettre en place de nouvelles chaînes de valeur, de nouvelles activités dans toutes sortes de domaines pour lutter contre l'entropie, parce que nous pensons que c'est ça l'enjeu fondamental du XXIe siècle.
Eh oui, l'entropie, donc c'est ce qu'on désignerait aujourd'hui par la désorganisation, l'imprédictibilité, et que elle augmente pour augmenter la résilience du vivant, il faut diminuer l'entropie. Cécile Renoir, je me tourne vers vous. Ce monde du travail, c'est aussi un modèle économique qui nécessite d'être accepté, acceptable. On sent les ambitions, les attentes des plus jeunes, et on sent aussi que les générations en place se posent des questions. Je parlais de la convention citoyenne qui bouleverse aussi un petit peu la donne, hein, et qui appelle à se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui peut être accepté, qu'est-ce qui est acceptable dans ce monde de demain?
Oui, absolument. Ce que je trouve très intéressant dans les travaux de la Convention citoyenne sur le climat, c'est précisément déjà d'avoir travaillé sur ce qui fait les différentes dimensions de nos existences quotidiennes, se loger, se nourrir, consommer, se déplacer, produire et travailler. Bien dire que dans chacun de ces domaines, eh bien, il y a des tas de choses qui sont non seulement imaginables, mais qui peuvent être mises en œuvre à la fois par l'État, par les entreprises, par différents types d'organisations, et puis par nous tous comme citoyens et comme consommateurs. Donc ça, je trouve que déjà, le fait d'avoir travaillé de cette façon-là est une manière de dire qu'il n'y a aucun acteur qui ait les solutions tout seul, et qu'il y a des choses qui sont faisables dans nos modes de vie très concrètement pour créer une nouvelle culture. Et on peut prendre, alors il y a plein d'exemples qui sont, et de propositions qui sont faites très concrètes, alors qui peuvent, on a beaucoup parlé dans les médias ces derniers jours du fait de peut-être limiter à 110 km/h la vitesse maximale sur les autoroutes. Alors évidemment, ça c'est quelque chose qui est pas spécialement dans notre culture, ou également d'essayer d'interdire ou de limiter très fortement les déplacements intérieurs en avion à partir du moment où il y a d'autres solutions possible, acceptable du point de vue d'une durée. Et ça, c'est pour donner deux exemples qui peuvent toucher concrètement nos vies quotidiennes et qui nous invitent à nous mettre dans un autre état d'esprit peut-être, mais en vérifiant que c'est faisable et que ça a du sens collectivement. Et tout ça, je pense que voilà, c'est faisable à partir du moment où nous nous formons à toutes les étapes de nos vies à cette nouvelle culture, et dont il me semble qu'il faut dire que c'est pas uniquement une affaire de normes et de décisions à prendre. Alors bien sûr, tout ça, il faut espérer que le gouvernement et le Parlement se saisissent de ces propositions et que ça soit traduit soit en transformation, que ce soit de la Constitution ou dans un certain nombre de décisions collectives. Mais ça suppose aussi de travailler sur nos imaginaires, sur l'élaboration de récits collectifs. Et c'est ce qu'on essaye de faire au campus avec un certain nombre d'acteurs qui sont intéressés par ce souci de travailler sur ces représentations collectives de manières de vivre différentes.
Et à ce titre, Cécile Renoir, travailler 28 heures par semaine, c'est-à-dire 4 jours, ça ne fait pas partie du récit collectif pour l'instant, visiblement?
Non. Et alors je pense que là il pourrait y avoir évidemment de grands débats pour savoir si c'est réalisable facilement pour tout type de métier ou pas. Je pense que ça le mérite de mettre en avant le fait que travailler c'est pourquoi, en vue de quoi, comment répartir aussi le travail de manière plus équitable, peut-être en évitant que certains travaillent de façon excessive et que d'autres n'aient pas accès à de l'activité rémunérée. Voilà, et donc tout ça, ça suppose de réfléchir différemment. Et en proposant aussi un autre imaginaire que celui de la compétition permanente pour arriver à des modes de vie désirables.
Alors ce monde d'après qui se profile sur le plan économique, il devrait être inventif, on l'aura compris, il doit être commun, et des jeunes pousses y œuvrent déjà. Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 2 le 18 février 2018.
Dans l'agitation des grandes villes, germe discrètement une nouvelle génération d'agriculteurs. Paris, 18e arrondissement. Une tour de 20 étages est juste en dessous. Une petite troupe d'apprentis maraîchers. Ensemble, ils ont répondu à un appel à projet de la mairie de Paris pour transformer ce parking désaffecté en espace fertile. Depuis, des champignons ont pris la place des voitures.
Alors notre recette magique, c'est de la paille et du sang de blé. Et voilà, c'est sur ça que les champignons poussent, on appelle ça un substrat.
Théophile, diplômé d'agronomie, est assez fier du résultat.
On a récolté 14 caisses hier et ça. Je crois qu'aujourd'hui on va faire pareil.
Avec quelques brumisateurs, du matériel de récupération pour l'essentiel, 200 kilos de pleurotes et de shiitake sont récoltés chaque semaine.
C'est des champignons qui voyagent très très mal. On les récolte, on les vend, donc il n'y a pas de transport et du coup il y a vraiment une qualité supérieure, quoi.
Faute de lumière naturelle, tout ne peut pas pousser ici. Alors des LED permettent de cultiver des graines germées, mais aussi du basilic, de la ciboulette ou de la menthe. Une offre très spécifique, mais un marché à prendre. C'est le pari de cette start-up qui a déjà embauché 6 personnes à plein temps.
Il y a 2 millions de personnes qui habitent à Paris. Il y a plus de, je pense, 70% de la population en Europe qui habite en ville. Produire localement des produits, en plus certifiés bio, ça fait sens. Et transformer des espaces morts en espaces vivants, leur donner une seconde vie, ça aussi, ça fait sens.
Bernard Stiegler, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, hein, ce secteur-là, le monde d'aujourd'hui, le monde d'après, le libéralisme et la place aussi des entrepreneurs. Hein, on pourra parler du MEDEF avec vous dans un instant, mais pour ouvrir des portes sur le monde professionnel, c'est à ce pacte gagnant-gagnant entre tous les acteurs, hein, qu'il faudrait parvenir, entre les écoles et les universités, mais aussi avec le monde du travail qui va devoir s'inventer ou se réinventer.
Oui, en fait, depuis 2 siècles et demi, c'est-à-dire depuis le début de ce qu'on appelle l'ère anthropocène, l'industrialisation qui commence en Angleterre vers 1770-80, s'est mise en place donc un mode d'organisation de la société qui s'est progressivement standardisé, qui a conduit à ce qu'on appelle ou à ce qu'on décrit comme un processus de prolétarisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la prolétarisation ? C'est ce que décrit déjà Adam Smith dans La richesse des nations, c'est le fait qu'il y a une division extrêmement importante du travail industriel et que les individus qui travaillent dans ces structures industrielles de plus en plus perdent leur savoir. Les savoirs sont passés dans les systèmes et dans les machines. Voilà. Au départ, ça concerne essentiellement les travailleurs manuels, mais progressivement, ça s'étend à l'encadrement, au management lui-même et même aujourd'hui aux scientifiques. Par exemple, les scientifiques aujourd'hui, de plus en plus, y compris les médecins, on en a vu le problème avec ce Lancet, sont confrontés au problème de confier des travaux à des machines, qui font par exemple du machine learning, sans savoir comment fonctionnent les machines en question, ce qui en principe est tout à fait contradictoire avec le canon de la scientificité.
C'est-à-dire qu'il nous faudrait rompre avec la dépendance au monde des big data, c'est ça ?
Non seulement ça, mais avec le processus de prolétarisation. C'est-à-dire le fait que progressivement, tous les acteurs du monde industriel perdent leur savoir. J'avais montré il y a quelques années dans un livre qu'Alan Greenspan lui-même décrivait ça sur son propre travail de président de la réserve fédérale. Si nous disons ça, c'est pour une raison très précise, c'est parce que Ludwig von Bertalanffy a montré, beaucoup d'autres l'ont fait aussi, d'ailleurs un chercheur mathématicien américain tout récemment, que les systèmes qui tendent à se standardiser de ce type-là deviennent entropiques et donc produisent de l'entropie. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'entropie c'est ce qui détruit la diversité, la biodiversité par exemple, la diversité des individus et leur inventivité, et nous sommes aujourd'hui dans une période où il est au contraire absolument indispensable de développer la négentropie, la lutte contre l'entropie. Ça suppose de transformer très profondément l'ensemble des critères d'évaluation et de faisabilité même qui sont développés dans le monde industriel depuis 2 siècles et demi. Pourquoi ? Parce que actuellement, par exemple, si vous mettez un avion sur le marché, il doit d'abord être certifié par une entreprise, par un dispositif de certification spécialisé, et on ne l'autorisera à voler que s'il respecte un certain nombre de lois. Ce qu'on va demander qu'il respecte, c'est les lois d'inertie, les lois d'attraction universelle, etc. C'est-à-dire qu'il respecte en fait la physique newtonienne. Le problème, c'est qu'il consomme aussi énormément de kérosène, c'est-à-dire d'hydrocarbures, et il ne respecte absolument pas les lois de la thermodynamique. Eh bien, on n'a pas intégré les lois de la thermodynamique dans les systèmes d'évaluation. Et donc, il y a un changement fondamental du rapport au savoir à opérer, d'une part en intégrant cette dimension-là du savoir, et pas simplement en thermodynamique, mais aussi en biologie, pour lutter contre la destruction de la biodiversité, en théorie de l'information, pour lutter contre les fake news, par exemple, contre le discrédit. Et ça suppose de développer chez les individus des capacités à produire de la négentropie dans toutes sortes de domaines, pas simplement dans le domaine des savoirs académiques, mais par exemple dans le domaine culinaire, dans le domaine de l'éducation des enfants, y compris dans le sport, etc., redonner sa place à la singularité. Alors pour cela, nous avons préconisé, nous mettons en place un dispositif pour tester ce qu'on appelle un revenu contributif. Et ce revenu contributif qui s'inspire largement de ce qu'on appelle le régime des intermittents du spectacle, consiste à donner une rémunération, un revenu donc, à des individus qui travaillent sans être employés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est exactement ce qui se passe chez les intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle, comme vous le savez, peuvent toucher une allocation de chômage, là en l'occurrence, qui est conditionnée au fait qu'au bout de 10 mois, ils doivent pouvoir faire 507 heures sous contrat, c'est-à-dire comme employés. Nous pensons que ce modèle qui permet à ces intermittents de développer leur savoir pendant 5, 6, 7, 8 mois de l'année sans être dans l'obligation d'avoir un emploi. C'est ce qui fait leur excellence. Hein. D'ailleurs, s'il existe toujours un cinéma français et un secteur culturel français important, c'est grâce en très grande partie à ce régime qui a été d'ailleurs proposé par le patronat, pas du tout par les syndicats, ni par le gouvernement dans les années 1930. Nous pensons qu'on peut étendre ce processus aujourd'hui à d'autres secteurs. Alors, des secteurs qui dépendent des territoires où l'on se trouve. Parce qu'il y a des territoires où, par exemple, en Seine-Saint-Denis, on sait revaloriser les déchets, etc. Et là, il y a des opportunités de développer un nouveau savoir de la valorisation des déchets, du recyclage. Dans d'autres territoires, ce qui sont par exemple des territoires ruraux, ce sont d'autres savoirs qu'il faut développer. Et donc nous sommes en train de mettre en place, depuis 3 ans maintenant, et encore pour 7 ans, puisque c'est un projet sur 10 ans, tout un dispositif où nous travaillons aussi avec de très jeunes gens, dès l'âge de 11 ans, puisque nous commençons en 6e, à aborder les possibilités de développer une économie qui reposerait par exemple dans le secteur du bâtiment sur ce que nous appelons les nouveaux compagnons du bâtiment. Ils sont des gens qui ne sont pas des salariés tout le temps, ils sont des intermittents, avec évidemment le problème qui se pose à tous les intermittents, une relative précarité, ça c'était un vrai problème, mais cette précarité, elle permet de produire énormément de valeur et aussi d'avoir des rémunérations qui peuvent être très élevées. J'ai beaucoup d'amis intermittents, mon propre fils est intermittent, d'ailleurs je connais des intermittents qui gagnent très très bien leur vie, mais qui ont la possibilité de fonctionner sur ce régime-là, alors avec une limite, hein, c'est plafonné je crois à 4 500 € par mois l'indemnité en question, mais voilà, c'est un vrai modèle économique, alors qui suppose, c'est ça le problème, une transformation des règles de macroéconomie.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il faut modifier le passage de la microéconomie, par exemple, quand on écoutait cette champignonnière qui est faite dans le 18e arrondissement de Paris, pour la valoriser pleinement, il faudrait intégrer ce qu'elle permet de diminuer comme externalité négative, par exemple les transports dont parlait la personne, etc. etc. Aujourd'hui, la comptabilité ne permet pas de faire cela, mais nous travaillons aujourd'hui, alors également avec des gens qui sont bien connus, un professeur de l'Université Paris-Dauphine, des gens d'AgroParisTech qui développent la comptabilité CARE, nous travaillons avec ces personnes-là, mais aussi avec des grandes entreprises, avec des banques, à modifier les modèles comptables pour arriver à valoriser ces processus-là et à valoriser les territoires.
Et oui, pour imaginer ce monde
extrêmement importante.
Oui, pour imaginer ce monde du travail de demain, Bernard Stiegler. Et je précise juste, parce que quand vous dites nous, c'est aussi, vous travaillez collectivement avec le collectif Internation pour penser ce monde de demain. Donc 52 membres, des scientifiques, des économistes, des mathématiciens, philosophes, juristes, anthropologues, sociologues, médecins, artistes, ingénieurs, chefs d'entreprise. Donc c'est vraiment un collectif qui pense ce monde du travail de demain.
Et qui tente de mettre en place un dispositif d'expérimentation, non seulement en Seine-Saint-Denis, mais dans d'autres territoires, puisque nous avons proposé aux Nations Unies de développer un processus que nous appelons des territoires laboratoires. Nous en démarrons un cet été en Croatie, en lien avec la Corse, l'Irlande et les îles Galapagos. Nous discutons avec l'État de Genève en ce moment même pour développer un territoire laboratoire en Suisse, donc pour l'ensemble de la République de Genève. Nous travaillons également avec des localités en France, c'est en cours de discussion, avec Milan, la banlieue de Milan, etc. Dans tout cela, ce que nous pensons, c'est qu'il est très important de réarticuler une recherche transdisciplinaire, d'une part. Il y a des gens comme Alain Supiot, Giuseppe Longo, Richard Sennett, des gens très très connus dans ces domaines et avec des compétences, des savoirs très très diversifiés, mais aussi de mettre en place ce que nous appelons de la recherche contributive, et qui permet à ces gens qui sont dans le secteur, disons, académique, de travailler avec, par exemple, en Croatie, nous allons travailler avec des éleveurs de brebis et de chèvres et de vaches, aux îles Galapagos avec des pêcheurs.
Ah oui.
En Seine-Saint-Denis, nous travaillons avec des tout jeunes gens qui sont encore au collège. C'est ce que nous appelons la recherche contributive et qui consiste à associer étroitement les populations et à faire que les territoires deviennent des laboratoires parce que les habitants deviennent des chercheurs.
Et oui, avec en vue ce revenu contributif. Bernard Stiegler, je vous propose que l'on écoute à ce stade de l'émission votre choix musical. Vous avez choisi de nous faire entendre une chanson d'une légende du jazz, Archie Shepp.
Oui. En effet.
Et la chanson, c'est Attica Blues. Il y a une raison particulière à votre choix.
Oui, oui, parce que il y a un mouvement en ce moment qui s'appelle Black Lives Matter aux États-Unis. Attica Blues, c'est un massacre d'Américains noirs qui s'est produit quelques années avant que Archie Shepp ne fasse ce disque. Mmh.
Et c'est la suite de notre émission De cause à effet sur France Culture, émission consacrée aujourd'hui au monde du travail pour demain, celui dont les jeunes rêvent, forts de leurs aspirations à préserver la planète ou bien fragilisés aussi par leur peur face à une société appelée à se réinventer et avec ce spectre du chômage. Nous sommes avec le philosophe Bernard Stiegler dont le dernier livre s'intitule Bifurqué, un livre paru au Lien qui libère, et nous sommes également avec Cécile Renoir, présidente du campus de la Transition, directrice de recherche à l'ESSEC, professeure de philosophie éthique au Centre Sèvres, à l'École des Mines de Paris et à Sciences Po. Elle est également religieuse de l'Assomption. Je vous propose tout de suite de découvrir l'histoire du jour grâce à notre partenaire Le Monde. Bonjour Rémi Barou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez choisi de nous parler de la Convention citoyenne et de ces Français qui se sont retrouvés embarqués dans une expérience inédite. Où en est-on concrètement des travaux accomplis ?
Eh bien ça y est, les 150 citoyens ont fini leurs travaux, ils ont rédigé plus de 150 propositions, ce qui donne un rapport de 600 pages qu'ils sont justement en train de remettre actuellement là au Palais d'Iéna, là où siège le Conseil économique, social et environnemental. Ils sont en train de remettre ce rapport volumineux à la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Donc on peut dire que cette mission qui était fixée par le président de la République, qui était de travailler à des solutions permettant de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, et surtout dans un esprit de justice sociale, et ben les citoyens, ils sont arrivés, ça n'a pas été sans mal, ils ont beaucoup travaillé, parce qu'ils étaient pour la plupart, comme ils étaient tous tirés au sort, ils étaient novices, ils ne connaissaient pas grand-chose, reconnaissent-ils. Ils se sont engueulés fortement, mais ils ont trouvé toujours, la plupart du temps en tout cas, la voie du consensus pour finir sur ces 150 propositions. Et ça a été un vaste travail, vraiment un grand chantier pour cette petite France, comme l'avait appelé le président Macron.
Mais alors Rémi Barou, ces 150 citoyens sont différents les uns des autres. On imagine que vous avez pu peut-être en suivre certains plus particulièrement ?
Oui, alors évidemment, dans ces 150, ça représente la société, c'est-à-dire des retraités, des lycéens, il y avait même deux mineurs, c'est-à-dire de moins de 18 ans, des infirmières, des agriculteurs, des chefs d'entreprise. Et on a fait, en effet, avec le journal Le Monde, on a suivi certaines de ces citoyennes et de ces citoyens, et je pense tout particulièrement à Danielle de Salmeuve, qui est une jeune retraitée, aide-soignante de l'assistance publique, que j'ai été voir dans son village de Côte d'Armor en Bretagne, les Ardrieux. Et on a beaucoup discuté, je l'ai suivie de session en session. Elle s'amusait d'abord d'avoir été tirée au sort, parce qu'elle était volontaire une fois qu'on lui a proposé, mais elle s'est prise au jeu, elle s'est même prise au sérieux, écoutant des experts, 140 experts auditionnés. Elle, qui n'a pas eu le bac, disait qu'elle a énormément appris, elle a vécu surtout une aventure humaine extraordinaire. Elle a découvert des gens, discuté probablement avec des personnes avec lesquelles elle n'aurait jamais pensé de discuter, des gens pas forcément d'accord. Et elle était ce week-end de faire des travaux extrêmement enthousiaste, les yeux pétillants. Alors maintenant, évidemment, j'allais dire une deuxième phase du travail commence, puisque les propositions doivent être traduites par le gouvernement, soit en loi, soit en référendum ou en règlement. Et les citoyens devront évidemment être très vigilants au sort qui sera fait à leurs 150 propositions. Et comme le disait Daniel, on n'a rien inventé peut-être, mais on a pioché dans ce qui était déjà présenté, dans plein de rapports, on a rassemblé, on a fait nos propositions. Et évidemment, l'aventure a été, je crois, fantastique pour ces 150 citoyens, très émus ce week-end de se dire au revoir.
Écoutez, restez avec nous Rémi Barou, je me tourne tout de suite vers nos invités pour savoir s'ils ont peut-être une question à vous poser, étant donné que vous êtes sur place au Palais d'Iéna. Bernard Stiegler, vous voulez en profiter peut-être ?
Eh bien, vous me prenez un peu au dépourvu.
Ou une réaction aussi par rapport à cette convention citoyenne inédite.
Alors, je pense que c'est une très très bonne démarche. D'ailleurs, j'ai appelé moi-même à ce qu'on développe un certain nombre des propositions qui sont dans cette convention citoyenne, issues de cette convention citoyenne, notamment l'inscription dans la Constitution de ce type de démarche. Ce que je crois, c'est qu'il est très très important d'intégrer à cette démarche la dimension que j'appelle épistémologique, c'est-à-dire de faire en sorte, on a proposé à ce que cette convention citoyenne auditionne des experts. Alors qu'est-ce que c'est qu'un expert ? Bon, c'est toujours un peu compliqué de le définir. Un expert est considéré quelqu'un qui est capable de faire disons, référence à l'état de l'art, comme on dit, c'est-à-dire ce qu'on sait aujourd'hui sur telle ou telle question, ce qui est extrêmement important. Mmh. Maintenant, ce que je crois, c'est qu'il est extrêmement important aussi de déclencher, d'engager de nouveaux processus de recherche fondamentale et de recherche appliquée, parce que pour beaucoup de choses que nous voulons faire, nous ne savons pas, tout simplement. Il n'y a pas d'experts, parce qu'il n'y a pas d'expérience. Et il est très très important de promouvoir dans ces démarches-là l'expérimentation. Voilà. Donc j'espère que dans les mois et les années qui vont venir, d'abord cette démarche va se développer, cette démarche des conventions citoyennes, qu'elle va effectivement entrer dans la Constitution, mais aussi que l'on va déclencher des processus d'expérimentation. Évidemment, vous me voyez venir. Je pense que la démarche de recherche contributive que nous pratiquons est très importante. Il faut associer les gens, pas simplement pour faire des préconisations, mais vraiment pour inventer, créer des choses. Et pour cela, il y a des méthodes. Et donc, j'espère qu'à l'avenir, on pourra les engager, ces méthodes.
Je me tourne vers Cécile Renoir. Est-ce que vous avez ou une question à poser à Rémi Berrou avant qu'il ne continue justement en séance, Cécile Renoir?
Je ne sais pas si c'est une question ou une réaction également. Ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, derrière toutes les propositions, il me semble qu'il y a ce souci du critère de ce qu'on appelle les limites planétaires et qui sont envisagées et du point de vue écologique et du point de vue social. C'est-à-dire, on pourrait dire, en permanence, essayer de faire en sorte que toutes les décisions à toutes les échelles soient marquées par le souci de la réduction de l'empreinte carbone ou du respect de la biodiversité. Mais tout autant aussi des enjeux sociaux et de faire en sorte que les efforts puissent être répartis et que la solidarité puisse prévaloir en permanence. Et ça, je trouve que, enfin, peut-être que ça serait une question ou une confirmation à demander, que ce double souci écologique et social est vraiment la ligne directrice des travaux de la Convention.
Rémi Barou, je vous laisse peut-être éclairer ou répondre sur ce point-là.
Ben, je pense que c'est en effet cette question de la combinaison de l'urgence climatique, de la transition écologique et de la justice sociale a vraiment été un des points forts. Il faut se rappeler quand même que cette Convention citoyenne pour le climat a été proposée par le président de la République à l'issue du grand débat national, lui-même issu de la crise des Gilets jaunes, qui était dans son point d'origine une sorte de protestation sociale contre l'augmentation du prix du diesel. Donc cette question a été omniprésente, à chaque fois qu'une mesure était proposée, il y avait toujours un des citoyens pour dire oui, mais qui va payer, ou est-ce que ça va pas gêner les plus démunis? Je donnerai un seul exemple, quand ils ont proposé de favoriser le bio dans les cantines et dans l'alimentation générale, parce que tout simplement, ils veulent une agriculture durable, une alimentation saine, tout de suite, ils ont pensé à combiner ça avec des chèques alimentation qui seraient destinés à des achats en bio et dans les AMAP. Parce que tout simplement, ils disent que nourrir, consommer ne doit pas être un acte militant. Ça doit juste être accessible à tous pour des produits de qualité.
Eh bien, merci Rémi Barou. Nous vous laissons rejoindre la séance. Bien sûr, je précise pour nos auditeurs que vos articles sur cette aventure et que vous avez couvert depuis le début pour le journal Le Monde sont à retrouver sur le site du Monde.fr et sur celui de l'émission. Bien sûr, merci à vous.
Merci.
France Culture. De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Cécile Renoir, je reviens sur un point. Il nous reste quelques minutes avant de découvrir la dernière séance et séquence de l'émission. Vous parliez du livre blanc en préparation au ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche, donc en vue d'une réforme de l'enseignement supérieur. Que sait-on de la prise en compte de formations liées aux enjeux environnementaux dans ce livre blanc? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, alors ce livre blanc, donc c'est le fruit d'un travail qui est mené depuis le début de l'année, depuis septembre, par un collectif qui réunit à peu près 80 enseignants-chercheurs, quelques praticiens, personnes travaillant en entreprise, dans des grands groupes ou dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, et puis des étudiants, notamment du mouvement pour un réveil écologique. Et alors tout ce petit monde s'est réuni dans des groupes de travail qui correspondent à des ensembles, des groupes de disciplines, que ce soit sciences de l'ingénieur, sciences du climat, littérature, langue et art, architecture, urbanisme, design, économie, finance, etc. À peu près toutes les matières sont couvertes, avec ce souci dont parlait Bernard Stiegler de favoriser une perspective qui soit trans et interdisciplinaire, donc qui permettent de relier les savoirs, donc il y a un aspect tout à fait systémique, et puis qu'il y a le souci aussi de valoriser toutes les dimensions de la personne, ce que j'évoquais tout à l'heure avec perspective que certains appellent une perspective holistique, c'est-à-dire qui ne s'adresse pas qu'à la tête, mais qui vise à regarder comment, à travers le déploiement de certaines compétences, les étudiants peuvent se mettre en mouvement et entrer dans la transition du point de vue de leur parcours personnel et puis de leur itinéraire professionnel. Et il y a aussi, et ça rejoint bien ce qu'a évoqué Bernard Stiegler à propos de la dimension d'expérimentation sur le territoire, le souci de faire valoir la diversité des contextes et le fait que, à la fois, nous cherchons à habiter un monde commun, mais qu'en même temps, celui-ci est marqué par beaucoup d'inégalités, une très grande diversité, et donc il faut adapter les enjeux de la transition à la diversité des territoires. Voilà, et donc dans ce livre blanc, il y a d'abord un socle commun, donc qui va être publié en septembre, et à ce propos, dans un monde, dans une perspective qui est un peu difficile pour le monde de l'édition, nous avons ouvert un soutien au financement participatif de la publication de ce qui va s'appeler donc le manuel de la grande transition, et ceux qui sont intéressés à soutenir l'initiative peuvent participer sur la plateforme Hello Asso Campus de la Transition. Et ce manuel de la grande transition, donc c'est vraiment un socle commun de connaissances et compétences pour la transition, qui fait valoir à la fois des enjeux qui sont relatifs au diagnostic à la fois macro économique, macro social, qui fait droit aux enjeux de meilleure connaissance du vivant, enfin ce qui rejoint bien aussi ce qu'évoquait Bernard Stiegler tout à l'heure. Et puis c'est le souci aussi d'aider chacun à entrer davantage dans la prise de conscience de ce qu'il peut faire avec d'autres, donc de donner des outils de discernement éthique, et puis réfléchir sur la nécessité de transformer nos règles du jeu, ce que certains appellent les métriques, les instruments de mesure et d'évaluation. Et là encore, je rejoins ce qui a été évoqué sur la nécessité, par exemple, de transformer les normes comptables. Voilà. Et donc, nous aussi, nous travaillons, je pense, avec à peu près certaines personnes qui font partie, comme Jacques Richard ou Alexandre Rambeau, voilà, qui essayent de faire valoir d'autres méthodes comptables, d'autres systèmes d'évaluation. Et puis, aussi, je disais un mot tout à l'heure de la nécessité de développer de nouveaux récits. Donc, il y a toute une réflexion qui est à la fois d'épistémologie, mais aussi en termes de rationalité à favoriser, qui fasse droit à la fois aux sciences, mais aussi aux arts, à la littérature. Aussi ce qui peut être l'expérience de comment la science-fiction ou les utopies peuvent nous donner à percevoir des futurs souhaitables que nous pouvons mettre en œuvre en réfléchissant peut-être un peu autrement.
Bien sûr.
Et puis il y a vraiment le souci aussi de la mise en transition très concrète, avec sans être dans une perspective, en étant très réaliste sur la nécessité de regarder en face les rapports de force, toujours la question de la violence et les moyens d'essayer justement de favoriser une reconnexion à soi-même, aux autres, à la nature, qui nous aide peut-être à changer un peu nos lunettes et à regarder les choses différemment, avec aussi une perspective qui soit marquée par l'espérance d'un autre monde à construire.
Alors voilà. Cécile Renoir, peut-être qu'on avance dans le temps et du coup il nous faut aussi, comme vous le disiez, penser autrement, plonger dans les textes fondamentaux. C'est ce que nous allons faire dans un instant avec Catherine Goliot du magazine Le Point. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous, Cécile Renoir et Bernard Stiegler. Je rappelle juste le titre de votre dernier livre, Bernard Stiegler, Bifurqué, édité Au lien qui libère, et toutes les informations vous concernant tous les deux, sur le campus de la transition, notamment le collectif Internation, sont disponibles sur le site de l'émission.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Et avec nous justement pour cette dernière partie d'émission, Catherine Goliot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef des hors-séries références, les hors-séries du Point, et le dernier paru porte sur l'homme et la nature. Alors dites-nous précisément, avec un tel sujet, quelle était votre ambition de départ ?
L'ambition de départ était très modeste, en fait. Elle est venue d'une interrogation, c'est-à-dire que je suis un petit peu peu âgée déjà, et j'ai vu évoluer le discours sur l'écologie, et je me suis demandé, mais finalement, ça vient d'où? Et pourquoi, tout simplement, alors qu'aujourd'hui, on se régale des salades bio, alors que il y a encore 30 ans, on trouvait tout à fait normal de les acheter dans un supermarché, et elles n'étaient pas bio du tout, qu'est-ce qui fait qu'on a, pendant des années, pas bougé? Et que, alors que des gens, des lanceurs d'alerte, se battaient depuis au moins les années, enfin, je ne vais pas même remonter, mais prenons tout simplement René Dumont dans les années 70, se battaient pour faire évoluer nos modes de vie en nous disant « attention, la planète est en danger, pourquoi est-ce qu'on n'a pas bougé ?» Et donc, j'ai voulu revenir aux sources, j'ai voulu savoir comment, au départ, on pensait la nature, pourquoi, par exemple, certains théoriciens aujourd'hui de l'écologie, notamment des pasteurs protestants, condamnent le christianisme en disant que c'est lui qui est responsable, finalement, de notre avidité et de notre incapacité à gérer correctement notre environnement, voilà, etc. Donc, au départ, c'est vraiment venu d'une interrogation.
Et donc de passer par les textes pour apporter des éclairages sur ces questions devenues majeures dans nos sociétés en crise et montrer que le sujet a traversé les siècles et les générations. Alors je sais que là le numéro est extrêmement riche. Moi il m'a beaucoup plu parce que on brasse vraiment l'ensemble de toutes ces questions et on prend conscience au fil des siècles aussi de ces enjeux. Je sais que vous avez aussi envie de nous parler du christianisme, je crois.
Envie d'en parler, disons que c'est un sujet intéressant parce que dans les années donc 80, il a été un certain nombre de théoriciens ont dit mais finalement ça c'est vraiment notre comportement est lié au fait que les chrétiens notamment nous sommes convaincus d'être les maîtres de l'univers, c'est-à-dire que la nature Dieu nous l'a donnée, elle a été faite pour nous. On part de la Genèse, l'homme a été créé le sixième jour ou le septième jour, je ne sais plus, mais en tout cas, Dieu lui a donné le contrôle des animaux, etc., etc. Et donc, à partir de là, la critique était, finalement, si l'homme pense qu'il a la suprématie totale sur la nature, c'est au départ un problème religieux et directement lié au christianisme. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, quand même. C'est vrai que dans la Bible, le récit de la Genèse peut être interprété et a été interprété comme l'homme étant choisi par Dieu, l'homme ayant une âme, il est donc supérieur évidemment aux végétaux et évidemment aux animaux. Et là-dessus, c'est vrai, s'est construit tout un discours, notamment en passant par saint Augustin, qui fait de l'homme l'élu qui est une sorte de lien entre Dieu et son environnement et la nature. Et alors, ceci étant, tout le monde le sait, le christianisme n'est pas né de nulle part, il est né du judaïsme, il est né aussi de la pensée judéo, de la pensée grecque. Et dans la pensée grecque aussi, on s'aperçoit qu'il y a des hiérarchies, c'est-à-dire que le rapport à la nature n'est pas le même, il est plus holistique, quelqu'un comme Aristote, par exemple, qui a eu une influence fondamentale sur notre civilisation, lui aussi faisait des hiérarchies. Et donc, on observe aussi que si effectivement la tradition chrétienne, les pères de l'Église, etc., ont corroboré cette image de l'homme qui a la suprématie sur son environnement, et donc finalement, pour lui, la nature n'est qu'un stock où il peut prendre ce qu'il veut et quand il veut, on observe quand même qu'il y a des voix discordantes. Dès le Moyen-Âge, et la voix la plus discordante, je dirais, c'est François d'Assise. François d'Assise qui n'hésite pas à aller prêcher aux oiseaux. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que, effectivement, dans l'Église, les gens qui ont voulu suivre François d'Assise ont été très vite menacés par l'Inquisition et qu'on leur a fait comprendre qu'il fallait peut-être rentrer dans le rang. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de voix donc, qui veulent relire les textes sacrés du christianisme et qui sont justement avec une visée beaucoup plus écologique en disant mais finalement si l'homme est vraiment l'élu de Dieu, il a aussi cette responsabilité de faire vivre et de respecter et de protéger cette nature qu'a créée Dieu.
Donc revenir aux origines, hein, Catherine Gouliot, et donc revenir aux sources, aux origines comme vous le faites dans ce hors-série, en sachant que, bien sûr, vous nous parlez aussi de toute cette évolution, de l'éveil des consciences, des alertes, des combats, de cette société écologique en devenir qui est aussi la nôtre. Et on découvre au fil des pages aussi des récits, des alerteurs. Vous nous parlez par exemple d'un défenseur de l'environnement du 19e siècle aux États-Unis, John Muir.
Alors John Muir, c'était pas le premier lanceur d'alerte aux États-Unis. Le premier, on peut dire, je pense que c'est Perkin March, qui était un ambassadeur qui avait beaucoup voyagé, qui venait de la Nouvelle-Angleterre et qui, ayant été ambassadeur à Istanbul, a voyagé beaucoup dans la Méditerranée. Et là, s'est rendu compte qu'il y avait eu énormément de destruction. On était très inquiet. Retourne en Nouvelle-Angleterre pour quelques années. Et c'est au moment où on est en train de construire la voie de chemin de fer. Et là, il assiste à la déforestation de l'État, et il est un des premiers à dire attention, on est en train de détruire nos richesses, et on est en train de couper la branche sur laquelle on est assis.
Il va se battre.
John Muir vient plus tard, et lui, John Muir, il va, c'est un grand écrivain, c'est un écrivain très populaire à l'époque, mais c'est plutôt un écrivain qui relève de la catégorie écrivain voyageur. Ou écrivain de paysages. Et alors lui, il a une histoire extraordinaire, c'est un Écossais.
Et on ne pourra pas la raconter aujourd'hui, Catherine Gouliot, mais en tout cas...
Parce que les gens connaissent bien le Yosemite.
Alors vous avez 10 secondes.
Bon, et bien c'est lui, en fait, qui est à l'origine de la création du parc de Yosemite. Et il s'est battu comme un fou, notamment contre l'État de Californie et contre l'État américain. Et il a réussi à faire créer ce parc et il a réussi à le faire protéger.
Mais du coup, vous nous avez donné juste envie de plonger dans son histoire. Merci Catherine Gouliot. C'est vraiment un très beau hors-série référence du magazine Le Point. Je rappelle son titre, L'Homme et la Nature, en kiosque tout l'été. Puis avec d'autres propositions aussi, vous retrouverez l'historien Stéphane François, le politologue Philippe Reynaud, Rob Hopkins, Dominique Bourg, beaucoup, beaucoup de propositions. Et puis merci à toute l'équipe qui m'entoure, à tous nos auditeurs pour votre fidélité. Comme toujours, toutes les informations, les compléments sont à votre disposition sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, podcast, réécoute. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur la page Facebook. Dimanche prochain, pour la dernière de la saison, nous parlerons transport aérien et mobilité à venir et nous serons avec Sébastien Porte et Raymond Wessner, une émission en partenariat avec la coalition hashtag Sauver le Présent. Et vous restez sur France Culture, bien sûr, dans un instant, c'est la suite de vos programmes Être et Savoir et Louis Touré.